présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, un petit mot personnel pour dire que ça fait plaisir de voir autant de monde. Je pense qu'en ce moment, on en a grand besoin. Alors même si vous êtes masqués, c'est toujours un peu bizarre quand on intervient de voir tous ces visages masqués. On aimerait plutôt voir les sourires ou parfois des gens qui s'endorment un peu. Mais en tout cas, on aimerait plutôt voir vos visages. Mais la culture a besoin aussi grandement de ce genre de manifestations. Et donc, il faut aussi remercier les organisateurs du festival d'avoir décalé et non pas annulé ce festival et puis de tenir bon contre vents et marées. Voilà, c'était juste un petit aparté personnel. Alors, on va débuter effectivement cette matinée avec Jérôme Vincent qui va se présenter. Donc, comme il a été dit, Jérôme est éditeur des éditions Actu SF qui représente pas mal de choses. Il est basé à Chambéry, c'est important de le dire et de le répéter, et y compris peut-être à la fin de son intervention, je lui demanderai de préciser ce qu'il est possible de faire, parce que je sais que Jérôme et d'autres interviennent en médiathèque, en milieu scolaire, etc. Et donc, comme dans le public, je sais que vous êtes aussi parfois demandeur de ce type d'intervention et que la SF, les littératures de l'imaginaire, ce n'est pas toujours une littérature qu'on maîtrise. Donc, ça peut être intéressant de faire appel à lui. Et Jérôme va nous présenter rapidement. Hein, évidemment, ce sera forcément un peu frustrant ce que c'est que l'Uchronie et puis les livres phares de cette école, de ce mouvement. Et puis il nous présentera aussi les éditions Actu SF qui d'ailleurs possèdent un prix de l'Uchronie et donc il est tout à fait qualifié pour en parler.
Merci Thierry, puis merci, un grand merci au festival, on ne le dit pas assez, mais c'est quand même très chouette d'avoir cette journée. Comme l'ont dit et Daniela et Thierry, donc moi je m'occupe des éditions Actu SF. On est basé à Buisseron, donc à au moins 300 mètres d'ici, soit un quart d'heure si vous marchez vraiment vraiment lentement. On existe depuis 20 ans. On est déjà vieux et ça fait déjà 10 ans qu'on est basé en Savoie. Nous, on est né dans une obscure banlieue parisienne avant d'émigrer directement. Il y a plus de montagnes et de ski ici qu'à Paris. Donc du coup, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a nos bureaux ici. On y reviendra avec Thierry, mais nous, on a à la fois des sites d'actualité littéraire sur l'imaginaire, sur le polar, sur la littérature jeunesse. Et puis, on a une partie éditeur. On fait 40 livres par an en moyenne, 50 l'année prochaine. Toutes mes équipes ont un peu de sueur, mais on va tenir les 50. Et on est diffusé par Média Diffusion, donc ceux qui diffusent aussi bien Fleurus que Dargaud. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? On a à peu près 200-250 titres au catalogue. Et puis je vous raconterai tout ce qu'on a fait ici. Moi, dans cette première heure, je suis vraiment le hors d'œuvre. Hein. Je suis vraiment l'apéro. Hein. Le plat de résistance sera Hugo Bellagamba. Parce que Hugo, il nous dépasse tous. Voilà, il vous dira des choses beaucoup plus pertinentes. Je vais vous présenter rapidement l'Uchronie et l'histoire de l'Uchronie. Voilà. Je suis pas prof, donc j'ai pris des notes. Et puis de toute façon, je vais pas les suivre. Donc bon, voilà. Mais si vous avez besoin de titres, on pourra vous filer les titres et évidemment les références à droite à gauche. Alors l'Uchronie, de manière très claire, en fait, c'est d'abord un jeu intellectuel. C'est d'abord la question du et si. Alors vous savez qu'en littérature, on adore le et si. Donc si je fais du thriller, c'est et si je découpais ma voisine et je l'enterrais dans plein d'endroits différents, par exemple. Si c'est de la romance, c'est et si je tombais amoureux d'un mec très riche mais qui aime bien faire des trucs avec des cordes, par exemple. Et ben en Uchronie, on joue avec le et si l'histoire avait été différente. Et si Napoléon avait remporté Waterloo. Alors on va beaucoup parler de Napoléon. Et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, mais et si la guerre de 100 ans n'était pas terminée et continuait encore aujourd'hui, par exemple. Donc c'est vraiment un jeu intellectuel qui se base sur ce qu'on appelle un point de divergence, c'est-à-dire et si les faits historiques n'avaient pas été ceux-là. Et l'histoire nous montre qu'il y a plein de fois où en fait ça s'est joué à pas grand-chose, hein, ces affaires-là, et les auteurs et les autrices adorent prendre ça en compte. Alors souvent pour se mettre quelques années plus tard pour voir un peu toutes les conséquences. Et si l'invincible armada espagnole n'avait pas coulé mais bien conquis l'Angleterre, peut-être qu'on aurait une Angleterre catholique aujourd'hui et que ça aurait changé plein de choses au niveau de la société ou au niveau des sciences et techniques. Donc l'Uchronie, c'est d'abord un jeu intellectuel et ensuite on y met des histoires. L'Uchronie, on va revenir sur le terme, en fait elle est utilisée souvent dans deux grandes parties. Donc moi je vais vous parler plutôt de littérature. Mais ayez bien conscience que les historiens aiment aussi l'Uchronie, parce que s'interroger sur comment aurait pu être l'histoire, ça permet eh bien, de se poser des questions sur ce qu'a été l'histoire et sur ses conséquences. Un des jeux, par exemple, il y a eu un livre qui s'appelle 1940 et si la guerre avait continué. Alors, ça a fait notre actualité cette année, mais c'est un livre qui date de 6-7 ans. Je vous lis juste le début de la quatrième de couverture, parce qu'elle explique bien en fait ce que c'est l'Uchronie et l'Uchronie pour les historiens. La quatrième, c'est « Et si la France avait continué la guerre en juin 40 ? Et si le gouvernement français avait continué la lutte contre l'Allemagne depuis l'Afrique du Nord ? Telles sont les questions posées par cet essai. Ainsi prend forme une façon entièrement novatrice de relire et d'étudier l'histoire de l'année 40 dans tous ses aspects, politiques, économiques, diplomatiques et stratégiques. Et c'est une alternative aux journées tragiques de juin à décembre 40 qui se dessinent alors, le contraste entre le possible et le réel n'ayant qu'un seul but, montrer que la décision de demander une armistice n'était en rien inéluctable. » Donc, les historiens se servent aussi de l'Uchronie pour montrer comment les choses ont basculé dans un sens ou dans l'autre et comment l'histoire finalement est faite de petites et de grandes histoires et de plein de moments de bascule. Ce moment de bascule, on appelle ça, nous, un point de divergence. D'accord ? Donc, si par exemple le général de Gaulle meurt dans l'attentat du Petit Clamart, hein, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est notre point de divergence et on va retrouver des romans qui imaginent ce qui se serait passé. Après, hein, ça peut être et si la révolution de 1968 finalement avait gagné, alors peut-être qu'on porterait tous des pattes d'EF et que Daniel Cohn-Bendit aurait été notre président à vie, peut-être. C'est une manière de tirer un peu le jeu. Vous vous souvenez de la phrase de Blaise Pascal, hein, si le nez de Cléopâtre n'avait pas été aussi long, l'histoire en eût été changée. Bah, l'Uchronie, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on peut aussi bien s'interroger sur la longueur d'un nez que sur l'issue d'une bataille. Et l'Uchronie, elle est aussi bien sur l'histoire en général que parfois sur l'histoire personnelle. On a des romans, et si on s'est tous posé la question, et si dans ma vie j'avais tourné à droite plutôt qu'à gauche, hein, j'avais pris ce boulot-là plutôt que celui-là. Le terme est un néologisme c'est dommage, j'avais une belle photo de Charles Renouvier. Donc, Charles Renouvier, c'est un auteur du 19e, hein, 1815-1903. On en reparlera aussi rapidement. Lui, il va inventer le mot uchronie sur le modèle d'utopie, donc avec le U pour ou préfixe de négation et chronos. Donc étymologiquement, le mot désigne donc une sorte de non-temps, hein, un temps qui n'existe pas. Donc voilà pourquoi l'uchronie s'appelle l'uchronie. Dans le monde anglo-saxon, ils ne s'embêtent pas, ils appellent ça histoire alternative. Hein, on ne va pas inventer des termes. Donc c'est alternate history. Les grandes dates, alors de manière très rapide, hein, donc il y a quelqu'un qu'on aime bien, c'est Tite Live. Hein, Tite Live, on est au 1er siècle et il imagine une histoire où Alexandre le Grand, plutôt que d'aller du côté de l'Est, il part vers l'Ouest. Et donc du coup, la conquête, il va se heurter, hein, à Rome et à la puissance romaine. C'est un des premiers exemples d'Uchronie, hein, aujourd'hui. Donc voilà, donc l'Uchronie, c'est une vieille histoire. Je vais vous la faire courte, hein, parce que derrière, vous aurez Hugo, puis vous avez toute la journée. Mais il y a quelqu'un que j'aime bien, moi, c'est Louis Geoffroy. Donc en 1836, il écrit un livre qui s'appelle « Napoléon et la conquête du monde ». Donc Louis Geoffroy, lui, imagine que Napoléon, en 1812, est parti avant la débâcle en Russie. Donc il est parti faire la guerre, quand il a senti que ça ne se passait pas bien, il est revenu, il a reconstitué ses forces, et du coup il est parti à la conquête du monde, et il meurt comme un souverain en 1836, et il a quasiment conquis le monde entier. Louis Geoffroy, il va gagner le pseudonyme de Louis-Napoléon Geoffroy Château, donc voilà, on sent bien que le roman de Louis Geoffroy, c'est plutôt de l'admiration pour Napoléon. Il est peut-être un petit peu revanchard quand même. Hein. En tout cas, ce n'est pas une œuvre innocente. On le sent bien admiratif de Napoléon. Côté anglo-saxon, la première uchronie littéraire, c'est une nouvelle. Hein, c'est l'Américain Nathaniel Hawthorne qui fait donc en 1846 la correspondance de paix. C'est une nouvelle qui raconte, hein, un 1845 différent d'une autre. Et en fait, il convoque plein de figures politiques, artistiques, qui sont morts dans la réalité. Il imagine qu'ils existent toujours et il discute avec lui. C'est un Anglais. Il y a Lord Byron, par exemple, qui est devenu un vieux noblio obèse, conservateur farouche. Et puis, on retrouve Napoléon. Mais comme lui, il est anglais, Napoléon n'a pas conquis le monde. Napoléon s'est échappé de Sainte-Hélène et désormais, il erre comme un malpropre dans les rues de Londres. Plus personne ne se souvient de lui ni de sa gloire. Voilà. Napoléon a pas mal cristallisé les uchronies quand même au XIXe siècle, mais c'est le reflet clairement de l'impact de Napoléon sur ce début XIXe. Hein. Chez les Français, il est encensé, et puis chez les Anglais, c'est un petit peu différent. On retrouve notre Charles Renouvier, 1876, avec Uchronie, Utopie dans l'histoire. Alors, Charles Renouvier, qui est un auteur, alors on ne va pas dire majeur, mais qui est un auteur qui a quand même de jolies publications, il imagine en fait la civilisation occidentale à partir de Marc Aurèle, qui exclut complètement le christianisme de Rome. Bilan au XVIe siècle, on a une Europe avec une histoire pacifiée. Alors, ce qui est intéressant avec Charles Renouvier, c'est qu'il va introduire cette notion de religion. Alors, ce n'est pas forcément évident, on est quand même fin 19e, ce n'est pas forcément à la mode. Et donc, l'idée, lui, c'est de se dire, en fait, le christianisme devient une religion un peu mineure, autre, et du coup, l'histoire de l'Europe est différente. Donc, il réécrit l'histoire à partir de la religion, qui sera aussi un des grands courants qu'on a régulièrement en Uchronie, et encore aujourd'hui, je vous parlerai de Rachel Tanner, par exemple, tout à l'heure. Bon, Charles Renouvier, on ne se souviendra pas forcément de son roman, mais on se souviendra qu'il a quand même inventé le terme d'Uchronie. Et puis, dans les petites choses marrantes, en 1931, par exemple, il y a en Angleterre une anthologie qui s'appelle « Si ça s'était passé autrement », une anthologie donc qui joue avec l'histoire, et on se souvient de cette anthologie parce qu'au sommaire, on a un certain Winston Churchill, qui est jeune et qui lui imagine, alors il a une nouvelle assez rigolote puisqu'il imagine que la guerre de sécession c'est le sud qui a gagné et son personnage c'est un historien qui imagine lui que le nord a gagné. Voyez, donc vous voyez bien le jeu dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est différente mais on a un personnage qui rêve qui imagine notre propre histoire quelque part avec un certain nombre de différences. C'est assez rigolo de la part d'un Winston Churchill. On est en 1931 et il imagine quand même la guerre de sécession et lui, il va se taper la Seconde Guerre mondiale juste après. Donc voilà. Rapidement, alors dans l'histoire de la science-fiction et dans l'histoire de la littérature, il y a quelque chose qui a beaucoup compté dans les années 20-30 du côté des Américains, ce sont les pulps. Les pulps, ce sont des magazines bon marché qui coûtent vraiment pas très cher, qui publient des nouvelles et des feuilletons. Essentiellement aux États-Unis, qui vont permettre à toute une génération d'auteurs de pouvoir arriver, hein, des Ray Bradbury, Philip K. Dick au tout début, ou bien encore des Lovecraft après sa mort, vont pouvoir vraiment émerger dans les pubs. Et les pubs, c'est ce qui va permettre surtout de diffuser l'Uchronie de manière massive. Pour l'instant, on est sur un jeu intellectuel pour des bons lecteurs et pour des intellectuels d'un seul coup. On a un accès beaucoup plus fort et une diffusion donc, de cette Uchronie. Après-guerre, l'Uchronie va vraiment passer dans les deux sens à partir des années 60 et vous avez quelques chefs-d'œuvre jusqu'aujourd'hui. Pour vous dire que l'Uchronie, c'est un sous-genre de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. C'est un genre qu'on rattache souvent au fantastique ou à la science-fiction. Ça rentre complètement dans ce cadre-là parce que c'est une littérature non mimétique, c'est-à-dire que c'est une littérature qui ne mime pas le réel. Hein, on n'est pas dans nos jours aujourd'hui, en tout cas en règle générale. Si vous avez peu de collections spécialisées ou quasiment pas, ou de maisons d'édition spécialisées, c'est un genre qui est important et qui est important à double sens. Alors, d'abord parce qu'il est étudié par les historiens. Aussi parce que l'Uchronie, ça va donner un certain nombre d'autres genres, comme le steampunk, par exemple, où en gros, on imagine qu'il y a un 19e, début 20e un peu fantasmé avec des machines à vapeur, des androïdes et ce genre de choses. Et s'il n'y a pas donc un gros, comment dire, si vous n'avez pas trouvé une maison d'édition qui ne fait que de l'Uchronie, en tout cas, c'est un genre qui revient régulièrement dans les publications, vous en avez tous les ans, et c'est un genre qui est toujours vivant. Et après la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir des années 70, vous avez toute une école française un petit peu de l'Uchronie, c'est-à-dire pas mal d'auteurs et d'autrices qui s'emparent du genre pour raconter différentes Uchronies. Et on va sortir peu à peu de Napoléon et d'Hitler pour avoir plein d'autres Uchronies vraiment très différentes et très particulières.
Alors justement, par exemple, le steampunk, est-ce qu'on le rentre dans l'Uchronie?
Alors c'est une bonne question. Souvent on l'associe à l'Uchronie puisque du coup l'idée c'est d'avoir un 19e siècle un peu fantasmé, plutôt sur l'époque victorienne, mais on peut aussi l'avoir du côté de Paris. Et c'est un peu comme si une partie des inventions de Jules Verne avait vu le jour. Donc on a quand même un point de divergence qui est plus un point de divergence technique, hein, l'invention de robots à vapeur par exemple. Il est moins précis dans le sens où c'est pas tant l'histoire qui a divergé qu'une invention sur l'histoire. Et à partir de cette invention, on tire le fil et il y a d'autres choses. Donc le steampunk, dans tout un tas d'exemples, en fait, c'est un décor qui se surrajoute à une histoire et qui se surrajoute à la grande histoire générale. Mais c'est pas le steampunk qui fait de divergence. En tout cas, c'est un 19e siècle fantasmé, donc ouais, ça rentre dans ce champ-là.
Ça peut se mêler, effectivement, je pense à la trilogie de Johann Elio, par exemple. La Lune, voilà, enfin le premier volume s'appelle La Lune, seul le sait, où il imagine, on est avec Napoléon III, qui est, dont on prolonge la vie de façon un peu artificielle. Bon, alors, il y a l'intervention d'extraterrestres, on va dire, mais au tout début, effectivement, c'est Jules Verne qui fait une espèce d'espion à la James Bond, un peu, qui va aller trouver Victor Hugo, qui est devenu le chef de la rébellion et de l'opposition. Voilà, donc on est là, pour le coup, dans un mélange des genres, de toute façon.
Oui, c'est ça, en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois que je vous donne une définition, les auteurs adorent prendre la définition et l'éclater contre les murs. Donc c'est vraiment le plus petit dénominateur commun. Mais La Lune seule le sait, c'est tout à fait ça. En plus, tu as oublié de dire qu'il y a des extraterrestres qui arrivent pendant l'exposition universelle. Donc je ne pourrais pas vous donner le point de divergence précis de La Lune seule le sait. Tout ce que je sais, c'est que Johan, en bon amateur d'histoire, il prend tous les éléments, il secoue bien dans un shaker, et puis il y a un roman passionnant qui s'appelle La Lune seule le sait, qui est publié en 1999 chez Mnemos, et sa suite. Et il va inventer plein d'histoires et de jeux avec l'histoire. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est un peu faux. C'est-à-dire que souvent les auteurs, il y a un point de divergence, mais parfois c'est pas clair. Il y a des œuvres où il y a plusieurs points de divergence, comme ça c'est un peu le bordel. Mais l'idée, ce n'est pas tant de savoir exactement quel est le point de divergence. L'idée, c'est de raconter une histoire, un récit, dans un cadre différent et de se poser des questions. Hein. Parce que dans La Lune seule le sait, en fait, évidemment, il y a cet empereur qui ne veut pas mourir, évidemment, il y a les extraterrestres, mais c'est quand même l'arrivée dans une société un peu corsetée de la fin du 19e d'éléments fortement perturbateurs avec une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et donc, c'est tous les enjeux sociétaux qui sont passionnants dans ce livre-là, c'est évidemment l'histoire en elle-même. Et le point de divergence, bon, bah, voilà. Hein, finalement, c'est relativement ténu et c'est pas très très grave. Hein, parce qu'après tout, on ne sait pas si le nez de Cléopâtre il avait été plus court, si elle aurait eu moins de rhume ou si vraiment ça aurait changé la face du monde. Quoi. Vous voyez, donc, on se pose en permanence ce genre de questions. Moi, j'ai une sélection de livres,
alors,
mais on
peut-être
peut,
juste
on
avant peut, ouais. Une ou deux questions, puis après, effectivement, il y a des livres qu'il faut quand même, comme on dit, avoir lu, des uchronies qu'il faut avoir lu avant de mourir. pourquoi est-ce qu'on range forcément l'uchronie du côté de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire? Est-ce que c'est une question d'étiquette? Alors, je dis ça parce que cet après-midi, par exemple, on recevra Laurent Binet, qui a écrit clairement une uchronie, hein, Civilization, c'est une uchronie. Par contre, Laurent Binet, on ne le range pas du côté de la SF. Et là, pour le coup, alors est-ce que c'est juste une question d'étiquette, de façon dont on voit la littérature ou pas? Pour le coup, on va dire c'est de la littérature, alors que c'est aussi une uchronie. Alors que quand on va parler des littératures de l'imaginaire, on va dire oui, c'est de la science-fiction, c'est une uchronie, mais c'est de la science-fiction parce que c'est paru dans une collection. Alors qu'il y a plein d'écrivains qui ont effectivement, qui ne sont pas connectés science-fiction. J'en avais relevé quelques-uns. Roy Lewis, par exemple, qui a écrit Pourquoi j'ai mangé mon père, qui a écrit une uchronie qui imagine qu'en 1848, il y a une révolution mondiale qui va apporter un certain bonheur sur Terre et puis que 100 ans plus tard, elle va être balayée pour basculer vers un monde qui est plus celui qu'on connaît. Et donc, il met tout ça en relation. J'avais relevé même Valéry Giscard d'Estaing. Bon, une uchronie tout à fait oubliable, mais qui évite la bérésina dans tous les sens du terme à Napoléon et qui imagine que Napoléon va se consacrer à la paix et non plus à la guerre. Il y a Philip Roth qui a écrit aussi un roman où il imagine que Lindbergh devient président dans une Amérique plutôt nazie, plutôt fasciste. Donc, et tout ça, ce sont donc des écrivains qu'on appelle écrivains et qu'on ne va pas ranger du côté de la science-fiction. Alors pourquoi, pourquoi on le raccroche plutôt à, aux littératures de l'imaginaire ?
Alors en fait, il y a deux questions en une. Donc on va parler, ouvrez les cahiers, étiquette, marketing et marché de la littérature. Alors il y a deux questions. Il y a la question de la définition propre et puis il y a la question de aujourd'hui les littératures de l'imaginaire par rapport au, au reste du monde. Faisons simple. Alors sur la question de l'étiquette. Les littératures de l'imaginaire, vous rangez dedans des choses aussi différentes que la science-fiction, la fantasy, le fantastique, le steampunk, l'uchronie, le cyberpunk. J'ai plein de définitions éventuellement à vous donner. Mais globalement, qu'est-ce qui lit Star Trek et le Seigneur des Anneaux, hein? Qu'est-ce qui lit les histoires de fantômes et effectivement des uchronies qu'on peut voir ici, rien. Et ben, en fait, pas grand-chose, sauf le plus petit dénominateur commun, c'est que ce sont des littératures non mimétiques. Donc ce ne sont pas des littératures qui miment le réel. D'accord ? Normalement, un thriller, il a le droit d'être ailleurs, hein, mais un thriller, il se déroule aujourd'hui. Si c'est un thriller historique, il a un cadre historique précis dans lequel il se déroule. D'accord ? Si nous faisons un thriller de fantasy historique, on peut avoir un cadre historique, un thriller, et jouer avec une réalité qui n'a pas été. D'accord ? Donc, c'est une question de définition, hein, mais c'est vraiment le fait que ce soit des littératures non mimétiques. C'est pas très beau, mais c'est à peu près le seul lien que j'ai trouvé. Un autre truc assez simple, c'est que souvent ce qui est considéré comme en science-fiction est publié dans une collection de science-fiction. Donc, voilà. De manière simple. Encore une fois, les définitions, les auteurs adorent brouiller les cartes, et c'est leur jeu d'auteur, et c'est très bien comme ça. Après, il y a le marché. Aujourd'hui, qui fait que du coup, alors nous on a mesuré, il y a à peu près 20% d'ouvrages de science-fiction ou de fantasy ou qui sont publiés dans des collections de littérature généraliste. D'accord ? Donc ce qui ne veut pas dire que Laurent Binet n'est pas une uchronie. Laurent Binet c'est juste une uchronie publiée dans une collection de littérature généraliste. Il se trouve qu'ensuite il y a un certain nombre de prescripteurs, de libraires, de journalistes qui vont classer ça en littérature générale, mais ça reste une uchronie. Quand Jean-Christophe Ruffin fait Globalia, ça reste un roman post-apocalyptique. Hein, il n'empêche que c'est publié dans une collection de littérature générale. C'est là qu'intervient une notion un peu de marketing. En fait, les éditeurs de littérature générale, ils publient à peu près ce qu'ils veulent. Et il y a aussi de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Tatiana Doronet, je ne vous conseille pas forcément, mais enfin, si vous aimez, le prochain bouquin de Tatiana, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, c'est une légère anticipation qui parle d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi, la littérature de l'imaginaire, j'y touche pas, quoi. » Eh ben, vous lui collez un bouquin de Tatiana Doronet, et puis ça passe crème. En fait, l'imaginaire, ce n'est pas forcément des vaisseaux spatiaux ou des elfes et des nains. Il y a plein de genres, de types de romans différents. Il se trouve qu'en France, ça s'est constitué comme une partie spécialisée de la littérature avec des codes, avec des couvertures, avec un rayon spécialisé en librairie. Ce qui fait que quand vous avez un bouquin d'imaginaire, vous arrivez en librairie, vous savez reconnaître à peu près un bouquin d'imaginaire, peut-être parce qu'il y a un elfe sur la couverture. Mais pas que. Vous verrez que les choses, en fait, elles changent beaucoup, et qu'au final, c'est juste une question d'étiquette, et c'est pas très grave. On a tous lu de la science-fiction ou de la fantasy sans le savoir, et on en est sorti vivant. Et il y a même des bons livres. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, c'est pas un souci, quoi.
Non, mais je trouve que c'est bien de le redire qu'il y a des bons et des mauvais ou des moins bons bouquins, et que peu importe l'étiquette, il faut justement essayer de balayer un petit peu tout ça.
Ouais, t'imagines que par exemple chez Pocket, La planète des singes, 1984, c'est passé en collection générale. Oui. Bon, on ne peut pas faire plus science-fiction à mon sens. Mais ce n'est pas grave. Pocket, en termes de marketing, s'est dit à un moment T, je pense que ce livre-là se vendra mieux là. Fin de l'histoire. Hein. Et Laurent Binet, qui a écrit Civilisation, c'est très bien. Les littératures de l'imaginaire disent « Ouais, cool, un copain ailleurs ». Puis voilà, c'est pas grave. Et puis s'il y a d'autres gens qui peuvent lire de l'Uchronie en lisant Laurent Binet, bah, tant mieux, ils ont lu de l'Uchronie. Et moi je pourrais leur dire, ah, mais si vous en avez lu, et vous ne le saviez pas.
Même pas mal. Alors, juste une dernière question avant de présenter les titres incontournables. Est-ce qu'on a une idée de la proportion ? Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait pas mal de choses qui se publiaient, mais est-ce qu'on a une idée de la proportion ou pas du tout de l'Uchronie, de ce que ça représente dans la production des littératures d'imaginaire?
Alors, donc un point d'abord, l'Uchronie, vous en avez en littérature, mais vous en avez aussi au cinéma, vous en avez en série, vous en avez en bande dessinée, vous pouvez en avoir un petit peu partout, en jeu vidéo. Sur littérature de l'imaginaire, en fait, on recense, parce que actusf.com est un site, il y a un prix ActuSF de l'Uchronie, on recense 40 à 50 bouquins par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il faut ajouter les mangas, il faut ajouter tout ça. Mais en littérature stricte, je n'ai pas les chiffres aussi précis que ça. Je sais te dire qu'il y a à peu près 900 bouquins inédits d'imaginaire en France chaque année. D'accord ? Vous imaginez qu'il y a à peu près 50 bouquins d'Uchronie dans ces eaux-là. Ce n'est pas aussi précis, ça varie d'une année sur l'autre, évidemment. Ça varie parfois avec un certain nombre de dates clés où on a des bouquins sur le sujet. Mais donc, c'est un petit champ littéraire. En revanche, c'est un champ littéraire continu. C'est-à-dire que vous en avez tous les ans. Et tous les ans, il y a des bouquins qui sortent, qui jouent avec l'histoire et qui rentrent dans ce champ-là.
OK. Alors, du coup, quels sont les livres incontournables qu'il faut posséder dans sa bibliothèque?
Ouais, j'ai bossé ma liste. Alors, le premier d'entre tous, mais c'est peut-être que c'est sans doute une de mes premières Uchronies conscientes que j'ai lues, c'est Pavane de Kate Roberts. C'est un bouquin des années 60-70. Donc lui imagine effectivement que l'invincible armada n'a pas coulé et a conquis l'Angleterre. Et son récit, en plus la reine Elisabeth a été tuée en 1558, son récit il est de nos jours, et en fait le fait que l'Angleterre soit passée catholique a changé notamment les sciences et techniques. Donc Pavane de Kate Roberts, on est tout à fait sur une uchronie avec un point de divergence et l'exploration sociétale qui va derrière. Orage en terre de France de Michel Pagel, c'est un peu la même chose. Lui, son truc, c'est qu'il se dit que la guerre de 100 ans a continué jusqu'au XXe siècle. Donc, avec les Anglais, on a continué à se faire la guerre. Et peut-être qu'en vrai, la guerre de 100 ans n'est pas vraiment terminée. Mais enfin, bon, lui, c'est une vraie guerre, pour le coup. Et du coup, c'est vraiment un affrontement entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Et c'est assez rigolo parce que, par exemple, un de ces personnages invente un avion. Sauf que comme on est sous une domination de l'Église en termes de pouvoir, qui a dit que seuls les anges pouvaient voler. Et donc, du coup, on est au XXe siècle et l'aviation n'apparaît pas, voyez, avec tout ce que ça pose comme question. Donc, Orage en terre de France de Michel Pagel, c'est un très bon bouquin qui est réédité par les Moutons électriques en poche. Donc c'est assez facile. Il y a un roman qui s'appelle Rouille de Florian Soulas. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu le manuscrit, puis il y a un éditeur qui a été plus rapide que moi, donc je suis très jaloux, mais ça reste un très bon bouquin chez Scrineo et chez Pocket. Paris, 1897, de nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Donc là, on est sur une invention technique, hein, on est à la fin du 19e. Ouais. Rouille de Florian Soulas. Vous pensez à la soupe et vous l'avez. On est à Paris, donc fin 19e, on a une avancée technique. Le truc de Florian, c'est qu'elle ne va pas du tout vous emmener sur la Lune, elle va plutôt vous emmener dans les bas-fonds de Paris, hein, puisque son héroïne, après une amnésie, est récupérée par une maison close, et elle va essayer de trouver un petit peu son histoire. Il y a une histoire de tueur dans Paris, avec des enfants orphelins, etc. Ce qui est intéressant dans Rouille, c'est qu'on a vraiment un point de divergence, mais les inégalités sociales sont toujours là, et elles sont même accentuées par ces nouvelles techniques. Donc voilà, ça c'est assez récent, hein, ça 3-4 ans, peut-être même pas. Il y a Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick. Alors, Philippe K. Dick est un des auteurs emblématiques de la science-fiction. Il a donné tout un tas de films comme Minority Report, par exemple, et influencé tout un tas d'œuvres comme Matrix, de manière assez forte. Le Maître du Haut-Château est un bouquin assez particulier, hein, dans sa production, date de la fin des années 60. Il imagine que les nazis ont gagné la guerre. Les États-Unis sont séparés en deux. Une partie est occupée par les Japonais, l'autre partie est occupée par les Allemands. Et dans cette Amérique un peu particulière, on a un auteur qui imagine, lui, que les Alliés, il est complètement fou, les Alliés ont gagné la guerre. Donc voilà. Un peu comme Winston Churchill, c'est l'histoire dans l'histoire, quoi, hein. On pose un cadre et on raconte une autre histoire dessus. Ça a été adapté, alors, avec plus ou moins de bonheur, en série télé par Amazon. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons. Voilà, évidemment, le lien avec le livre est de plus en plus ténu au fur et à mesure. La Voix des Oracles d'Estelle Faye, autrice francophone également. Elle est en Gaule, on est au 5e siècle, l'Empire romain est en train de se désagréger, la religion catholique est en train de monter, enfin la religion chrétienne est en train de monter en puissance, et elle va raconter donc l'histoire d'une jeune héroïne, et elle va y mettre un petit peu de magie. Donc c'est l'irruption un peu de la fantaisie dans un cadre historique qu'on connaît, là aussi pour raconter toute une autre histoire, et là aussi il y a des histoires de religion derrière. Voyage de Stephen Baxter. Donc là, ils partent du principe que JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, n'a pas été assassiné et que du coup, les Américains ne sont pas allés sur la Lune, ils ont été jusqu'à Mars. Donc évidemment, ça change un certain nombre de choses. Là aussi, c'est intéressant de se poser la question, à partir de cet événement si dramatique que la mort de JFK, quel visage aurait pu être celui de l'Amérique ensuite. Il y a un roman qui me tient à cœur, évidemment, c'est Rêve de gloire de Roland Wagner. Pas Richard, n'importe quoi. Pardon.
C'est pas un space
opéra. Non, ce qui est bien avec Rêve de gloire, donc c'est un roman uchronique qui décrit une guerre d'Algérie alternative à partir de la mort du général de Gaulle dans l'attentat du Petit Clamart. Donc c'est ce que je vous disais. Alors, c'est un bouquin particulier parce qu'on est nombreux dans le monde de littérature de l'imaginaire à avoir connu Roland Wagner. C'était son grand œuvre il y a passé 10 ans. Surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un bouquin passionnant, où il imagine vraiment que le Summer of Love, hein, la fin des années 60, c'est aussi bien en France, enfin aux États-Unis, mais en France, qu'en Algérie. Il nous raconte des histoires de casbah, de rock, il revisite véritablement les liens entre la France et l'Algérie. Lui, il y a plein de points de divergence dedans, donc il change l'histoire à toutes les pages. C'est ultra référencé, mais si vous n'avez pas les références, c'est pas grave. Donc si vous les avez, vous faites partie du club, quoi. Hein. Si vous les avez pas, vous les avez pas. Et ça se lit très bien. Vraiment grand roman, hein. Rêve de gloire de Roland. Tancred, d'Hugo Bellagamba, hein, qui est caché là-bas. Tancred, c'est un noble normand qui va partir dans la première croisade et qui peu à peu va se poser plein de questions sur la croisade et son bien fondé. C'est un roman que j'aime beaucoup et je le dis pas simplement parce que Hugo est des nôtres aujourd'hui, mais c'est vraiment un livre qu'il faut lire et relire. Là aussi, on s'intéresse à une autre période, on est sur des terres dont on n'a pas forcément l'habitude et c'est vraiment très chouette. Toujours sur cette histoire de religion, moi j'aime bien le cycle de Mitra de Rachel Tanner, puisque du coup, elle part du principe que c'est pas le christianisme qui a émergé, mais c'est le culte de Mitra, hein, qui est pas très loin, et que du coup, le christianisme est devenu vraiment une petite secte à éradiquer. Donc elle change vraiment les perspectives, c'est une trilogie, c'est désormais en intégrale chez Mnemos. Là aussi, c'est très bien. Hein, si vous
Mitra,
aimez bien,
ça s'écrit comment ?
C'est Mithra. Voilà. Si vous aimez Alexandre le Grand, il y a Alexandre le Grand, les Aigles de Rome, de Javier Negrete, donc auteur espagnol. Lui, sur Alexandre le Grand, alors c'est un peu la même chose que ce que je vous présentais un petit peu avant, sauf qu'Alexandre ne meurt pas. Et comme il a conquis tout l'Est, il décide de se tourner vers l'Ouest. Et là aussi, il va mettre en scène l'affrontement avec les troupes romaines et avec Rome. Donc voilà. Et puis, l'Uchronie vraiment importante, c'est Fatherland de Robert Harris, publié plutôt dans des collections de thrillers, hein, d'ailleurs, où vous avez le Troisième Reich qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, et on est à Berlin en 1963 avec les recherches d'un agent de la Gestapo qui enquête sur la mort de plusieurs hauts dignitaires du parti nazi. Donc là aussi, renversement de la situation, renversement des codes et histoire d'espionnage, une forme de thriller dedans, quoi. Donc voilà. Avec ces 10 bouquins-là, vous avez déjà une bonne base d'Uchronie, hein. Mais je vous l'ai dit, il y en a 40 ou 50 par an, donc vous pouvez fouiller, et en fonction même des thématiques que vous aimez. Laurent Binet, vous avez les Aztèques, hein, mais vous pouvez aller à peu près partout. On a des uchronies sur la Russie, on en a en Chine, on en a un petit peu partout.
Merci. Alors avant de présenter plus avant les éditions ActuSF et tout ce qu'elles mettent en œuvre, puisqu'on l'a dit, il y a eu autre chose ?
Non.
Donc il y a les éditions, mais il y a aussi un site, il y a un prix, etc. Peut-être sur cette partie-là, est-ce que vous avez quelques questions à poser à Jérôme ? Ou des titres à ajouter qui vous paraissent incontournables, de partage ?
Oui.
En littérature jeunesse.
Ben, je vous en donnerai. Alors, La Voix des Oracles d'Estelle Faye est publiée plutôt en jeunesse, hein, donc c'est plutôt pour les adolescents. Je rebondis. Il y a pas mal d'Uchronies en jeunesse aussi, et c'est chouette parce que du coup, vous pouvez bosser avec les enfants sur l'histoire qu'on leur présente comme un peu monolithique. Et du coup, il y a pas mal de choses. Mais si vous voulez plus de références, je vous en donnerai volontiers.
Pas d'autres questions ? Oui, si. Michel Beignet.
Vous avez pleinement raison. Alors, l'Uchronie, c'est une manière d'interroger l'histoire. Donc, vous en avez plein sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est effectivement passionnant et à la fois complètement effrayant d'imaginer que les nazis ou que même un régime comme Vichy continue. Mais vous en avez pas mal aussi en littérature générale. Et voilà, c'est très recommandable.
Pas d'autres questions ? Si ? Ah, on va. Ah. Voilà. Je reformulerai la question si jamais.
En fait, c'est ce que je vous disais. Parfois, vous avez des points de divergence bien précis, hein, l'invincible armada, l'attentat du petit Clamart, et parfois, c'est un petit peu plus diffus. Hein, le point de divergence, en fait, les auteurs, les autrices ne sont pas tenus de vous expliquer le point de divergence. D'accord ? Donc, ils le font, mais parfois, ils ne le font pas forcément. Vous avez raison de citer l'utopie. L'utopie, c'est évidemment quelque chose de très important dans la littérature de l'imaginaire, avec notamment Thomas More. Mais c'est pas... Hugo aura peut-être un avis différent du mien. L'utopie, souvent, ne fait pas forcément des bonnes histoires. En revanche, de l'utopie naît quelque chose qui nous intéresse beaucoup en littérature d'imaginaire, c'est la dystopie. Donc, c'est comment est-ce qu'en fait l'utopie vire mal. Hein. Évidemment, quand tout le monde est heureux, il n'y a pas d'histoire. Donc, on imagine plutôt des choses quand ça tourne mal. Hein. Donc, voilà. Et donc, l'utopie, elle est importante en tant que génératrice véritablement de pas mal d'histoires, mais aussi parce que la dystopie va s'inscrire en faux par rapport à cette utopie-là.
Peut-être on pourra reposer la question tout à l'heure effectivement à Hugo Bellagamba qui a travaillé sur le sujet et qui nous explique la filiation qu'il y a entre l'utopie et l'Uchronie, comment petit à petit les utopies sont des lieux géographiques imaginaires et puis après deviennent des projets politiques et comment tout ça s'intègre dans la réflexion littéraire à travers l'Uchronie. La part de l'autre. Derrick Emmanuel Schmitt, oui, tout à fait, qui imagine que Hitler rentre à l'école des Beaux-Arts de Vienne et du coup n'est plus tout à fait la même.
Vous y êtes. Ouais. Il y a tout un tas d'Uchronies, donc on adore Hitler, j'allais dire ça, n'importe quoi. On adore mettre en scène des Uchronies autour de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein d'Uchronies aussi sur Napoléon. Et alors Napoléon, il fait tout, il conquiert le monde. Il finit va-nu-pied en Angleterre, mais il y a aussi des Uchronies où il part aux États-Unis. Parfois, il part faire la guerre au Mexique. Enfin, voilà, vous en avez. C'est sur ces grands moments-là, vous en avez plein.
Oui. Oula.
Ouais, vous êtes en Uchronie aussi, ouais. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, il y a des récits où c'est sur l'histoire, mais ça peut être aussi de l'histoire personnelle. Si je fais un voyage dans le temps pour aller jusqu'à ma terminale et que j'ai enfin 18 en maths alors que j'ai eu 5, je change le cours de mon histoire. Ça n'arrivera pas, je vous rassure. J'aurai toujours 5.
Ah. La question, c'était est-ce que le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire entre aussi, dans le cadre de l'Uchronie ? Alors, peut-être on va présenter... Ah, une dernière question. Oui ? Je voulais juste faire un Et c'est aussi quelque chose qu'on va discuter tout à l'heure avec, avec Hugo.
Ouais, complètement. C'est pour ça que je dis que les auteurs et les autrices ne sont pas tenus d'expliquer précisément leur point de divergence. Je termine juste dans les références. Il y a une très bonne collection de bandes dessinées, si vous voulez vous frotter un petit peu à l'Uchronie. Alors c'est chouette parce que du coup, ça vous permet de voir plein de choses différentes, qui s'appelle Jour J chez Delcourt. Et il y a notamment une BD passionnante où c'est Mai 68 qui a gagné. Et on voit Chirac et, se balader en patte def dans un Paris où vous avez le Sacré-Cœur qui a plein de couleurs vives, qui a eu des graphes un petit peu partout, mais façon flower power, quoi. Donc voilà, donc c'est assez chouette aussi de ce côté-là.
Chirac était sûrement pour l'amour libre. donc comme il faut qu'on avance un petit peu, donc, par rapport aux éditions ActuSF, donc, qui existent depuis le début des années 2000, c'est ça, quel était le propos de départ de cette maison d'édition? Comment est-ce qu'elle est arrivée? Et quelle a été l'évolution de, son, de sa ligne éditoriale?
Alors le propos de départ, c'est une pizza. Voilà. Donc je vous raconte rapidement l'histoire. On est au milieu des années 90. J'ai le bonheur d'être lycéen puis étudiant. Je suis dans une banlieue parisienne, il n'y a effectivement pas Internet à ce moment-là. On commence à lire pas mal de bouquins de science-fiction, de fantasy, de fantastique, parce qu'on a moins d'affinité avec Balzac, plus avec Victor Hugo, mais clairement, Philippe K. Dick emporte tout à ce moment-là. Et autour d'une soirée pizza, on se dit, bah, on va faire un fanzine avec des copains. Donc on veut faire une revue pour parler de notre passion, parce qu'on pense qu'il ne se passe rien en France, ce n'est pas du tout vrai. Mais nous, on y croit. Donc on fait un fanzine tiré à 80 exemplaires. C'est dire si on était grand public. Je mobilise la photocopieuse de la préfecture d'Île-de-France parce que mon père y travaille. Donc en douce, on fait des trucs, puis on agrafe à la main. Voilà. Arrivent les années 2000, on décide de faire un site internet. À ce moment-là, donc on est dans plein boom du net, de la bulle spéculative internet. Hein. Nous, on est toujours vraiment entre copains. On fait des concours de nouvelles pour les jeunes auteurs amateurs. On reçoit plein de nouvelles et du coup, bah, quand vous avez des gagnants, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire un recueil de nouvelles parce que c'est le mieux. Et puis on fait un livre, on fait deux livres, on a le site et puis on fait trois livres. On crée une société en 2003 et tout ça est une société de loisirs. On a tous des boulots à côté. Et puis à partir de l'arrivée en Savoie en 2010, on professionnalise, on embauche des gens et tout ça se crée. Donc il n'y a pas de propos de départ, sauf le fait qu'ayant grandi là-dedans, on avait envie de faire des trucs là-dedans. Et puis au fur et à mesure, ça se professionnalise. Donc on a à la fois un site d'actualité littéraire sur l'imaginaire qui s'appelle actusf.com. On y a ajouté avec le temps un site sur le polar qui s'appelle bipolar.fr et un site sur les littératures jeunesse qui s'appelle Mes premières lectures. Et puis se constitue une maison d'édition au fur et à mesure. Au début, les livres sortent un peu quand ils sont prêts. Donc il y a des années, il y a 8 livres, puis il y a d'autres années, il y en a 3. Hein, on apprend le métier. On va nous-mêmes voir les libraires et les bibliothécaires. Puis après, on a un diffuseur, on se met des plannings. Enfin, on rentre chez un diffuseur, on se plante. Hein, on fait des livres qui ne marchent pas du tout, donc on change notre ligne éditoriale. Et puis bah, aujourd'hui, 250 titres. Quoi. Donc,
Alors, comment est-ce que arrivent les manuscrits chez vous là? Pour l'instant, c'est vous qui allez chercher les auteurs, c'est les auteurs qui vous écrivent. Il y a un boom des littératures de l'imaginaire, j'imagine.
Alors, en fait, il y a trois manières d'avoir des manuscrits. Il y a les auteurs, les autrices qui travaillent déjà avec nous. Quand ça s'est bien passé, ils ont tendance à nous filer le manuscrit d'après. Hein. Donc, on a une filiation, on travaille sur du moyen terme ou du long terme avec un certain nombre de personnes. C'est la première source des manuscrits. La deuxième, c'est quand on va chercher des manuscrits étrangers, on va lire, acheter des droits, traduire, et on a des gens comme Nnedi Okorafor, par exemple, qui est une grande dame de l'afrofuturisme et de l'African futurisme, donc une science-fiction qui a plutôt une base africaine, ou George Martin qui a fait Game of Thrones, ou Robin Hobb pour L'Assassin Royal. Donc voilà. Et puis la troisième et dernière voie, ce sont des manuscrits non sollicités, donc des gens qui nous envoient des manuscrits via la boîte des manuscrits. Et là, on en reçoit à peu près 1000 par an, entre 1000 et 1500, pour une à deux places. Voilà. Donc là, on a pris la décision douloureuse de fermer provisoirement cette boîte à manuscrits, parce que juste, on n'arrive pas à tout lire. Quoi. Et du coup, bah, ça entraîne de la frustration chez les gens qui nous écrivent, et c'est normal. Et nous, ça entraîne de la frustration parce qu'il y a peut-être des pépites qu'on n'a pas vues. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont été publiés ailleurs, qui ont vendu plein d'exemplaires ailleurs et qui nous avaient envoyé un manuscrit. Donc voilà.
Et alors, comment se répartissent les manuscrits? Quelles sont les collections phares de votre maison d'édition, de ta maison d'édition?
Alors, rapidement. Donc, pour tout ce qui est étranger, on a une collection qui s'appelle Perles d'épices. Donc, ouais, j'avais des jolis slides, mais ça, c'est, tout notre, c'est vraiment notre domaine étranger. Hein. Perles d'épices, parce que d'une, vous en avez sans doute entendu parler, et parce que dans le film Dune et dans l'œuvre Dune, il y a une épice qui donne des pouvoirs de manière assez simple. Ensuite, on a notre collection de fantasy qui s'appelle Bad Wolf. Donc, c'est toute notre fantasy un peu francophone qui est là-dedans. La grande collection générale d'ActuSF, c'est la collection Les Trois Souhaits. Arrivent en Trois Souhaits tous les livres qui ne sont pas dans d'autres collections. Oui, ça vous donne un panel. On mène avec les Indés de l'Imaginaire, donc avec deux autres éditeurs avec qui on est associé, Les Moutons Électriques et Mnemos, on mène une double expérience, c'est-à-dire qu'on a deux collections partagées, une collection de poche qui s'appelle Helios, et une collection jeunesse qui s'appelle Naos, hein, plutôt young adulte. L'idée, c'est que vous avez pour Helios trois titres en librairie par mois, et vous ne savez pas si c'est Mnemos, ActuSF ou Les Moutons Électriques, c'est pas très grave, vous avez une collection partagée. C'est assez inédit en littérature et ça se passe globalement plutôt bien. J'ajouterais, pour faire vite, qu'on travaille beaucoup le 8-12, donc la littérature jeunesse pour fin primaire, début collège, hein, les pré-ados, voire les pré-pré-ados. On a plusieurs titres et on a notamment mené une expérience, on mène une expérience en ce moment en Savoie qui s'appelle Les Chevaliers de la Raclette. Alors, évidemment, les Chevaliers de la Raclette, on est chez nous, hein, on est en Savoie, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que c'est écrit par Jean-Laurent Del Socorro, auteur chambérien, présent ici, et Nadia Coste, autrice lyonnaise, qui a une trentaine de bouquins jeunesse. On va retrouver des héros qui vont faire des voyages dans le temps sur les grands événements historiques de la Savoie. Donc, le château en flammes, l'incendie du château des Ducs de Savoie avec le Saint-Suaire. Il y a évidemment le tome 2 qui s'appelle La montagne brisée, qui est l'effondrement du granier. Le troisième qui est là, on va du côté de Mandrin, hein, et puis le quatrième que je viens de finir, qui sortira donc début 2021, qui ira du côté d'Annecy et de la ville de Boutaïe, donc la ville romaine avant Annecy. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui puisse jouer avec l'histoire de la Savoie, de la Haute-Savoie, qui soit pensé pour les enfants avec un cahier pédagogique à la fin, pour les gens qui aimeraient faire un certain nombre d'exercices, avec une police d'écriture qui est pensée pour les enfants dyslexiques, pour que ce ne soit pas un frein, mais que ce soit accessible à tout le monde. Et on essaye de jouer un petit peu aussi avec les programmes scolaires pour être pas très loin de ce qui se passe là-dessus. On dit que c'est du 8-12, ça dépend évidemment de la capacité de lecture des enfants. Moi, j'ai un gamin qui lit bien, donc à 6 ans, il les a lus. Mais évidemment... tous les enfants sont différents en fonction qu'ils aiment ou pas la lecture. Donc voilà un peu nos trois champs. En gros, c'est vraiment de la littérature d'imaginaire pour du grand format à du classique, collection de poche, et puis on fait de plus en plus de la jeunesse.
Organisé par les éditions ActuSF, il y a ce fameux donc, prix de l'Uchronie qui permet justement de repérer des Uchronies, parce qu'on peut trouver, je pense, plein de renseignements sur le site ActuSF, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi regarder l'ensemble de la production si on s'intéresse au genre particulier de l'Uchronie pour essayer de... Donc ça prend un peu de temps. Donc là, le prix ActuSF, il met en valeur un certain nombre de choses. Alors comment fonctionne ce prix et qu'est-ce qui récompense?
Alors, donc, la grande idée il y a 10 ans, c'était de se dire, avec le site internet d'actualité, on va créer un prix sur l'Uchronie, parce qu'il n'y avait pas de distinction particulière pour les bouquins Uchronie, et comme on aime beaucoup ça, on avait envie vraiment de pouvoir mettre en place une telle distinction. C'est aussi à l'initiative de gens qui sont des passionnés d'Uchronie et des grands spécialistes, comme Bertrand Campeys, et Eric Henriet, hein, qui était notre président jusqu'à il y a peu. Et puis, on a un jury constitué de passionnés. Ils sont aujourd'hui 6 ou 7 là-dessus. Et ils décernent donc 3 prix tous les ans. Un prix pour la littérature, un prix pour le graphisme, et puis un prix spécial quand il y a prix spécial. C'est assez rigolo parce que ça donne une image un petit peu de ce qui s'est passé dans l'Uchronie sur les 10 dernières années. Et là, en fait, la dixième année, cette année, la onzième édition. Voilà, et puis on s'inscrit dans l'histoire des littératures de l'imaginaire en France. En gros, ils lisent à peu près tout ce qui sort. Ils ont un système de notation d'étoiles avec un tableau. Ils s'autogèrent, donc c'est très bien, c'est super pour moi. Et puis, vous savez, tous les jurys littéraires, ça se passe autour d'un repas. Donc, c'est souvent un repas asiatique à Paris, assez fort en termes de piment. Et donc, il y a des discussions et ils ne sortent du repas qu'une fois qu'ils sont d'accord sur les nommés et sur les lauréats. Donc, voilà comment ça se passe. C'est remis sur un salon qui s'appelle Les Rencontres de l'Imaginaire à Sèvres, qui est un petit salon. C'est une initiative toujours intéressante, c'est passionnant de les entendre débattre. Et ils ont vraiment des choix qui sont des choix uniquement qualitatifs, hein, dans le sens où il n'y a pas d'influence. Ils n'ont pas le droit de primer des livres d'ActuSF, à mon grand regret, mais enfin, c'est comme ça.
Sinon, ils iraient toujours.
Évidemment. Voilà, je crois qu'on a un joli prix depuis 10 ans. Pour les gens qui aiment ce genre de littérature, ça donne des choses quelques bases, quoi. Hein. Mais ça veut dire que quand Agnès B. fait une exposition autour du steampunk et de l'Uchronie, ils vont primer, et puis on va chercher quelqu'un d'Agnès B. pour qu'il nous explique pourquoi il a fait cette expo, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du ou des derniers lauréats en date ?
Alors, pour cette année, je ne sais pas. de manière très claire. Je crois que l'année la plus forte, sans doute, ça a été l'année où on a primé Rêve de gloire de Roland Wagner, dont je vous parlais tout à l'heure. Estelle Faye a aussi été primée. Hein. Rouille de Floriane Soulas, dont je vous parlais aussi, a été primée. Donc, je vous ai mis dans la liste des 10 incontournables quelques livres vraiment distingués. Et puis, dans des grands gagnants, il y a souvent la collection Jour J. Alors, pas tous les ans, hein, chez Delcourt, mais parce que cette collection-là, elle fait 4 à 5 albums d'Uchronie par an. Donc, il y a quand même. Jean-Pierre Pecot et Fred Blanchard sont des passionnés d'histoire, et c'est vraiment une histoire au long cours sur 10 ans. Quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû sur les éditions ActuSF qu'il faut dire à tout prix en quelques minutes ?
Alors, nous sommes savoyards. Donc, nous sommes à Buisseron. Ce qui veut dire qu'on a un certain nombre d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs, d'éditrices de la région. Un de nos auteurs phares, c'est Jean-Laurent Del Socorro, qui justement a pas mal de livres qui jouent avec l'histoire. Royaume devant être colère sur la guerre de religion, Je suis fille de rage autour de la guerre de sécession, et Boudica autour de la reine celte qui a combattu les Romains en Angleterre. Donc nous, on joue aussi pas mal avec l'histoire, et en plus avec des auteurs et des autrices locaux. On a 5-6 autrices essentiellement à Lyon. On a une éditrice à Annecy, on a des traducteurs à Grenoble. Donc, on est plutôt bien implanté. Et en plus, on a eu le bonheur de faire 4 livres avec le festival du premier roman. Ce qui veut dire que si la littérature générale fait parfois de l'Uchronie, parfois la littérature de l'imaginaire fait aussi de la littérature générale. Voilà. Et on s'en est bien sorti. Zéro traumatisme. Quoi.
Alors si, il y a quand même... Un peu. Il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que dans votre maison d'édition, vous avez publié de Bernard Campeys et Karine Gobled un guide de l'Uchronie.
Et oui, alors si vous voulez prolonger cette aventure formidable que nous avons ensemble, il existe un guide de l'Uchronie, qui est un petit bouquin en poche, qui va vous raconter non seulement l'histoire de l'Uchronie bien mieux que je l'ai fait, mais avec aussi des œuvres clés en littérature, en bande dessinée, en cinéma, et dans à peu près tous les genres. En plus, ils ont interviewé un certain nombre d'acteurs. Karine Gobled est présidente du prix ActuSF de l'Uchronie, et ce petit bouquin-là, que vous aurez à la librairie, fait référence aujourd'hui, si vous voulez aller gratter un petit peu plus loin dans ce genre littéraire.
Puis alors, pour terminer, donc ça, je trouve que c'est important. Donc effectivement, comme je l'ai dit en tout début, on est souvent, quand on est en médiathèque, quand on est en milieu scolaire ou autre, on fait intervenir des auteurs, des éditeurs, etc., sur différents types de littérature pour intéresser les élèves, pour connaître un genre, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement. Et en plus, comme vous l'avez dit, il y a des auteurs qui sont à proximité, donc on peut faire venir facilement, de pas très loin, ça coûte pas très cher. Il faut quand même les rémunérer pour leurs prestations, ça, il faut bien le préciser. Et donc, quel type de... Parce que je sais qu'avec les Indés de l'imaginaire, vous avez aussi réfléchi à un certain nombre de choses. Donc, vous, par exemple, quel type d'intervention vous pouvez faire en milieu scolaire ou médiathèque ?
Alors, sur le milieu scolaire, on va plutôt envoyer nos auteurs et nos autrices, puisqu'après tout, c'est eux qui écrivent et c'est eux qui parlent le mieux de leurs livres. Je sais que Jean-Laurent a des interventions en collège et en lycée qui arrivent. Nadia Coste est régulièrement au lycée. Moi, il m'arrive de donner, mais vraiment à la carte, hein, et en marge de mon activité, des formations sur les littératures de l'imaginaire en bibliothèque. En ce moment, je fais ça beaucoup à l'Abège, du côté de Toulouse, voilà, où je vais passer une journée par an, mais ça m'est arrivé de passer 2-3 jours où on regarde l'histoire, on regarde des grands titres, on discute des bibliothèques idéales et ce genre de choses, et on adapte. Hein, voilà. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai gratté hier sur mon histoire de l'Uchronie pour vous présenter quelque chose d'à peu près cohérent, et on essaye de faire tout ça. Donc voilà, en priorité nos auteurs, et puis après, à titre perso, moi, je vais volontiers faire une formation où là, par exemple, je vais à Chassieux, à côté de Lyon, le 10 novembre, 7 novembre. Je vais rencontrer le club de lecture et on va présenter les éditions ActuSF. Quoi. Donc, voilà. On est très engagé chez ActuSF sur deux choses qui sont importantes. C'est à la fois le mois de l'imaginaire. Donc en octobre, il y a un mois de l'imaginaire avec plein d'opérations en librairie, plein d'opérations en magasin, plein d'opérations en médiathèque. C'est assez inédit en littérature. C'est 37 éditeurs dans une même association qui organisent ce mois de l'imaginaire. Donc, on est pas mal là-dedans. Et puis sur tout ce qui est sur l'imaginaire, on est impliqué dans l'Observatoire de l'imaginaire, qui est donc une sorte d'organisation informelle où on va chercher tous les chiffres de production, de parité, sur la presse, sur comment ça se passe pour la science-fiction et la fantasy. En gros, à chaque fois qu'il y a un truc avec marqué de l'imaginaire, on est dedans, quoi. Donc si vous avez si vous voulez des infos, on peut vous en donner.
Et dernière chose, pour regarder un petit peu ce qui se produit, ce qui se discute autour de ces littératures-là. Les festivals les plus importants, c'est quoi? Les Utopiales de Nantes et les Imaginales?
Ouais, alors les deux grands festivals d'imaginaire, ce sont les Utopiales. Donc, auront lieu fin octobre, tous les ans à Nantes, qui est le plus gros festival de science-fiction. 100 000 visiteurs l'année dernière. Donc, ça commence à pousser sérieusement. Vous avez les Imaginales au printemps à Épinal. Vous avez pas mal de choses à Lyon. Hein, pas très loin. Donc vous avez les intergalactiques qui ont lieu en général en avril. Alors cette année, tout est un peu bousculé, hein, puisque aujourd'hui on est en mai, donc voyez. Et pourtant il fait pas beau. Donc vous avez les intergalactiques à Lyon, vous avez le festival Octogone, vous avez tous les deux ans du côté de Mézieux les Oniriques. Donc à Lyon, on est plutôt pas trop mal équipé. Il y a un festival de fantastique, ils m'ont appelé hier. Ils font un festival au château d'Annecy. 30 et 31 octobre, ouais, en même temps que les Utopiales, mais voilà. Donc voilà, en gros, on compte 15 à 20 festivals par an en France, où vous pouvez vous balader quasiment sur toute la carte, sachant qu'on est aussi au Salon du Livre de Paris, qu'on a longtemps été à Genève, qu'on va tous les ans à la Foire du Livre de Bruxelles. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, et donc c'est toujours intéressant, même si on ne peut pas s'y rendre physiquement, malheureusement, de jeter un œil à la programmation sur Internet.
D'autant que, puisque actusf.com est un site, nous enregistrons toutes les conférences de ces grands festivals-là, et qu'aujourd'hui, il y a plus de 2500 conférences sur l'imaginaire disponibles gratuitement sur actusf.com.
Ça, c'est important.
En gros, si vous voulez en savoir plus sur les zombies, j'ai une quinzaine de confs avec des auteurs, des spécialistes à vous proposer. Les zombies ou autre chose, hein. Mais c'est pareil pour tout ça.
Bah merci Jérôme pour
merci
cette présentation hyper concentrée. Donc maintenant, si vous voulez prolonger le débat ou si vous avez d'autres questions, vous savez où le trouver. Hein. N'hésitez pas, je pense que Jérôme répondra bien volontiers. Et puis comme le temps passe, malheureusement, on n'a pas trop de temps pour des questions complémentaires. On va passer à l'intervention suivante avec Hugo. Mais de toute façon, on peut retrouver Jérôme encore pendant tout le festival. J'imagine, il doit y avoir... Les livres sont à la vente.
Les livres sont à la vente. Les librairies Jean-Jacques Rousseau et les autres librairies. Donc.
Garin et Bois d'Amarante.
Garin, Bois d'Amarante, pas de souci. Merci.
Voilà, merci.